un vaccin contre la Covid-19 bientôt dans votre frigo, comme celui de la grippe. C'est ce que promet Sanofi. Le groupe pharmaceutique français table sur une mise sur le marché en juin 2021.
On se fixe l'objectif de pouvoir fournir un maximum de doses dès l'été et de permettre aux Français de retrouver une vie normale très vite.
La course au vaccin s'accélère à coups de rebondissements. Le laboratoire américain Moderna vient d'annoncer un futur vaccin efficace à 94,5%. La semaine dernière, c'est un autre laboratoire américain, Pfizer, et son associé allemand BioNTech qui ont garanti un vaccin pour janvier. Une prouesse scientifique.
C'est un grand jour pour l'humanité quand vous réalisez que votre vaccin est efficace à 90%. On peut voir la lumière au bout du tunnel.
L'Union européenne espère des campagnes vaccinales dès janvier prochain. Bruxelles a déjà passé commande pour obtenir des doses des futurs vaccins, notamment celui de Pfizer.
Une fois qu'il sera disponible, notre plan est de le déployer rapidement partout en Europe. Tous les États membres vont recevoir leur quote-part en même temps, dans les mêmes conditions. Nous y sommes presque.
En France, le ministère de la Santé martèle que si les futurs vaccins ne sont pas sûrs, ils ne seront pas commercialisés. Une manière de tenter de rassurer des Français, parfois très réticents.
C'est trop précoce. Enfin, personnellement, je ne me ferai pas vacciner.
Très bien pour ceux qui veulent le prendre, si ça leur fait plaisir, mais non, je ne le prendrai pas.
Alors faudra-t-il rendre la vaccination obligatoire pour venir à bout de l'épidémie? Le vaccin est-il le seul moyen de retrouver une vie normale? Y en aura-t-il vraiment pour tout le monde dès 2021?
L'efficacité annoncée de 90% donc par les laboratoires Pfizer n'est qu'une communication de laboratoire. Elle n'a pas fait l'objet d'une reprise par la presse scientifique. Qu'en est-il, Nathalie Coutinet? Effectivement, ça interroge la manière dont ça a été annoncé. Il y a eu ce communiqué de presse par Pfizer qui n'était effectivement pas accompagné d'une explication scientifique comme c'est le cas habituellement. Est-ce qu'en effet, c'est nouveau et est-ce que ça peut interroger?
En effet, d'habitude, dans le cas des médicaments ou des vaccins, ce sont des tests qui sont des résultats de tests qui sont publiés dans les revues scientifiques et qui sont à l'appui des résultats qui ont été donnés. Donc là, tout est inédit en fait dans ce vaccin, hein, les montants, le nombre de laboratoires impliqués. Donc on est dans l'inédit absolu. Il y a une urgence de santé publique qui n'a jamais été rencontrée, jamais été telle. Donc on comprend qu'il y a aussi un enjeu politique, il y a des enjeux économiques. Donc tout ça fait que, on a des annonces qui ne sont pas des annonces habituelles et qui ont d'ailleurs posé des problèmes à un certain nombre de
groupes. Les annonces, Bertrand Guidet, succèdent aux annonces, puisque Moderna a annoncé ce matin, un autre labo, une efficacité à 94,5%. Alors pareil, c'est une efficacité avérée par la littérature scientifique ou non, c'est non, de l'ordre du communiqué?
Non, c'est de l'ordre du communiqué, mais il faut comprendre ce que c'est que l'efficacité. Donc l'efficacité, c'est jugé sur un critère dur qui est la prévention de formes sévères de la maladie. Ce n'est pas le fait qu'on développe des anticorps en réponse au vaccin. Donc je rappelle comment c'est fait, c'est ce qu'on appelle une phase 3. Donc il y a un certain nombre de personnes qui reçoivent le vaccin et d'autres qui ne reçoivent pas le vaccin. D'accord. Et puis on suit, on regarde quels sont ceux qui vont développer la maladie. Et là, dans une étude intermédiaire, on pourra peut-être discuter ce que ça veut dire. Clairement, il y a énormément. Il y a beaucoup plus de malades dans le groupe non vacciné qui vont développer une forme symptomatique par rapport à des personnes non vaccinées. C'est ça l'efficacité vaccinale. On est quasiment dans un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que les malades non vaccinés vont développer 10 fois plus souvent une forme grave que les malades. Que des personnes,
c'est ça. Oui. Alors, le chiffre du jour, Vincent.
300 millions, c'est le chiffre du jour, c'est le nombre de doses de vaccins précommandées par l'Union européenne à Pfizer. Avant, trois autres accords avaient déjà été conclus avec le suédois-britannique AstraZeneca et l'américain Johnson & Johnson, à chaque fois 400 millions de doses pour l'un et l'autre. Et puis avec le duo franco-britannique Sanofi-GSK, 300 millions de doses. Alors Nathalie Coutinet, ça fait plus d'un milliard de doses pour la communauté européenne qui compte 500 millions d'habitants. Donc là, on en a suffisamment. Ça va.
Alors, tout dépend du vaccin. En fait, c'est une stratégie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et quand ces précommandes ont été réalisées, personne ne pouvait dire quelle serait la firme qui serait la première à découvrir le vaccin. Donc, on voit bien une stratégie qui est de faire des commandes, enfin des précommandes, aux différents acteurs les plus susceptibles de découvrir le vaccin. Alors, la deuxième limite qu'on peut donner, c'est que la présidente de la Commission européenne avait annoncé que dans ces achats, il y en avait aussi pour les pays du Sud, parce que c'est aussi un vrai questionnement. Hein. C'est un vaccin qui va coûter relativement cher.
Combien ? On sait déjà ?
Pfizer a annoncé 39 $. Sanofi avait annoncé 10 dollars. AstraZeneca, 10 euros. AstraZeneca avait annoncé de vendre à prix coûtant. Donc, vous voyez, cette question aussi, elle va être très extrêmement importante. Dans la loi de finances de la Sécurité sociale, le gouvernement a prévu à certains budgets et ce qu'on peut estimer que le vaccin sera à 10 euros. Donc vous voyez, ça va beaucoup dépendre.
Mais c'est l'Europe qui commande de façon centralisée. Est-ce que la France ou l'Allemagne ou l'Italie font leurs propres commandes ?
Alors pour le moment, c'est des commandes qui sont centralisées, soit pour toute l'Union européenne, soit au départ avec AstraZeneca, c'était 4 pays. C'était l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie et la France. Donc la stratégie a évolué au cours du temps. Plus on s'approche finalement d'un éventuel vaccin, plus on voit que les autorités se mettent en ordre de bataille. La France a aussi, c'est une autre question, mais a commandé des super congélateurs pour ce vaccin qui va se...
Pour le stockage.
Car il faut le garder à moins 70 degrés, c'est ça, le vaccin de Pfizer. Est-ce qu'il faudra vacciner tout le monde, professeur Guidet ?
Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait une compétition entre les différents laboratoires pharmaceutiques, parce que ça va être probablement...
ça fera baisser le prix ?
Faire baisser le prix. Ça, c'est l'aspect que je ne connais pas, mais qui est évident, qui est important. L'autre aspect, c'est qu'on peut imaginer une efficacité vaccinale différente selon les personnes. C'est-à-dire qu'effectivement, on va parler après de la priorisation de l'accès au vaccin. Ben, il faut vérifier qu'un vaccin que l'on va administrer chez quelqu'un de 75 ans est efficace, alors qu'il a peut-être été testé chez des gens beaucoup plus jeunes. Et donc, ce côté efficacité mérite d'être confirmé sur la population cible du vaccin. Et donc peut-être qu'un vaccin à ARN messager sera différent d'un vaccin atténué, enfin, etc. Et donc,
qu'est-ce que c'est qu'un vaccin ARN messager pour les béotiens que
donc l'idée, l'ARN, c'est ce qui permet de donner les informations génétiques pour faire fabriquer les protéines. Et donc on donne le vaccin avec cet ARN messager qui va faire fabriquer à l'intérieur du corps la protéine. La protéine Spike, qui permet au virus de rentrer dans les cellules.
Et ça, c'est une technologie tout à fait nouvelle.
Tout à fait nouvelle.
On n'a pas de vaccin qui existe sur cette
technologie. Exact, tout à fait nouvelle.
Quels sont les laboratoires qui font ça, Moderna
aux États-Unis ? Oui, exactement. Oui, c'est les deux principaux qui sont
En Allemagne.
Donc, vous voyez, l'idée, c'est on fait fabriquer à l'intérieur de son corps la protéine, et donc le système immunitaire va fabriquer des anticorps dirigés contre cette protéine fabriquée à l'intérieur de son corps. Voilà. C'est ça le principe. Par opposition à un virus atténué, où on va, grâce au virus, ou éventuellement...
Un vaccin atténué.
Un virus atténué qui a une efficacité vaccinale, comme c'est le cas pour beaucoup de virus.
Contre la rage, par exemple. D'accord.
Pour atteindre le matelas vaccinal, il faut imposer l'obligation ?
Effectivement, on a vu des maladies disparaître totalement parce que l'essentiel, 90% de la population, 99% de la population est vaccinée. Là, dans le cas de cette maladie, d'abord, il ne va pas être possible de vacciner immédiatement tout de suite, puisqu'il y a évidemment un problème de production, de distribution et puis de vaccination. Si on a un vaccin qu'on conserve à moins 70 degrés, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir se faire vacciner chez le médecin, donc il va falloir vacciner dans les hôpitaux. Donc il y a des tas de problèmes logistiques qui empêchera cette vaccination en grand nombre et tout de suite. Donc la stratégie, évidemment, consiste d'abord à vacciner...
les personnes les plus...
Alors, selon l'efficacité du vaccin, s'il empêche les formes graves, vacciner les populations qui sont les plus sujettes à développer des formes graves, les personnes âgées ou des personnes qui ont d'autres troubles. Mais là,
des comorbidités, comme
on dit. Si le vaccin empêche la transmission, il y a aussi les personnes qui sont très exposées, qu'il faudra vacciner assez vite, les personnels de santé, par exemple.
Et à partir de quel pourcentage l'épidémie sera très contrôlée, voire...
Donc ça dépend des virus, de la contagiosité des virus. Donc la rougeole, par exemple, c'est une maladie qui est très contagieuse. Là, on est plutôt avec un R0 autour de 3 ou de 2,8. La rougeole, c'est plutôt de 16, 18. Donc on dit qu'il faut au moins 60%
de la
population vaccinée pour qu'il y ait une couverture. Voilà.
C'est une prouesse technique et technologique. C'est un vaccin, c'est 10-15 ans.
Un vaccin, c'est un médicament. Donc, oui. Et donc, pour un élaborer, médicament, il y a un certain nombre de phases précliniques, cliniques, pour respecter. Et donc, je pense que ce qui est très important de dire à la population française, c'est que le processus a été accéléré dans ces différentes étapes, mais les différentes étapes ont été respectées.
C'est-à-dire qu'on n'a rien bâclé.
On n'a rien bâclé.
Il y a des gens qui ont peur qu'on ait bâclé.
Non, mais c'est pour ça que j'insiste, parce que je pense que c'est très important de dire que il y a une énergie extraordinaire qui a été développée dans de très nombreux laboratoires, qu'effectivement, il y a eu un processus d'accélération, phase 1, phase 2, etc. Mais que,
aucune inquiétude sur les effets secondaires, même si on n'a pas assez de recul dans le temps.
Alors, les effets secondaires, il faut suffisamment de personnes vaccinées et suffisamment de délais. Donc on dit qu'il faut en gros 2 mois de délai après la deuxième dose, parce que la plupart de ces vaccins nécessitent 2 doses. Donc voilà, donc je pense que, et c'est ce que les autorités requièrent d'ailleurs pour donner l'autorisation.
Quel est le calendrier le plus optimiste? C'est-à-dire, le vaccin s'avère efficace, on arrive à se le procurer, on fait vacciner la population. Si on prend l'exemple de la France, c'est dans quel délai tout ça?
Je pense premier trimestre 2021. Pas population générale, on verra après, population cible, bien sûr.
Nathalie Coutinet, seul le vaccin peut arrêter la pandémie, on doit placer notre espérance là-dedans?
Alors, à court terme, c'est effectivement le vaccin qui semble être le meilleur espoir. Mais il y a aussi, évidemment, beaucoup de recherches sur un médicament ou sur des médicaments qui seraient susceptibles de soigner cette maladie. Donc, certains ont été éliminés et les chercheurs travaillent sur les anticorps monoclonaux, notamment, mais le professeur est bien plus compétent que moi là-dessus. Mais donc, effectivement, il y a aussi des espoirs et des recherches de traitement, mais là, c'est à plus long terme. C'est-à-dire qu'on n'a pas de traitement qui, à court terme, le semble efficace.
Alors, on va y revenir avec vous, professeur, mais d'abord avec Nadia, l'accès, pour en finir avec le vaccin, enfin, façon de parler, l'accès des pays pauvres
oui,
à ce vaccin.
Oui, vous en parliez, l'accès notamment des pays du Sud, et c'est une question qui a été posée, formulée, avec une certaine inquiétude par l'OMS elle-même. C'était en octobre dernier, à l'occasion du sommet mondial de la santé, le directeur de l'organisation a mis en garde contre la tentation de ce qu'il appelait le nationalisme vaccinal. Et de fait, on le voit bien, ces pays riches se sont précipités pour précommander des millions de doses. Et d'après un think tank américain qui s'appelle Center for Global Development, il ne restera plus grand-chose pour tous les autres, sans parler du tarif tel qu'il est négocié, comme vous l'avez dit. Et puis, il y a quand même une piste pour une distribution équitable du vaccin. C'est le dispositif COVAX. C'est une alliance de plusieurs gouvernements, de scientifiques et d'ONG qui voudraient financer l'approvisionnement des pays émergents. Le hic, il y en a plusieurs, mais c'est notamment le fait que ni les États-Unis ni Pfizer ne sont pour l'instant associés à COVAX. Et puis à ces questions éthiques s'ajoute un défi logistique. Certains des vaccins en développement nécessitent donc un protocole de stockage et d'administration qui sont très stricts. Et beaucoup, beaucoup de pays n'ont ni le temps ni les moyens de s'adapter à ces contraintes-là. En Afrique, il n'y a que 2 pays pour l'instant qui sont sur les rangs. Professeur Guidé, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'aucun pays ne sera lésé? Est-ce qu'il faut faire de ce vaccin, quand il sera trouvé, un bien commun?
C'est une pandémie mondiale, donc il n'y a aucune raison de léser sur le bord du chemin certains patients, certains pays. Donc ça plaide pour effectivement une couverture.
Mais c'est pas déjà ce qu'on est en train de faire, pardon, justement, quand on voit qu'il y a cette course-là?
Ah non, mais il y a une course. Je veux dire, laboratoire pharmaceutique, c'est pas des enfants de cœur. Je veux dire, derrière, il y a effectivement des enjeux financiers. Puis après, il y a une régulation mondiale.
Et
moi, une solidarité. Et moi, je pense qu'il faut absolument permettre à ces pays d'accéder à ces vaccins. Alors après, ça pose des questions de logistique. C'est-à-dire que si c'est un vaccin, il faut faire 2 injections à 3 semaines d'intervalle. Il faut conserver les vaccins à moins 70. Il faut oublier. C'est-à-dire que dans un certain nombre de pays... C'est pour ça que moi, je suis assez content que plusieurs firmes développent des vaccins. On peut imaginer que d'autres vaccins soient plus adaptés à ces populations-là, que effectivement le vaccin à type d'ARN messager qu'il faut garder à moins 70. Je veux dire, dans...
Et alors, professeur Guidet, pour aller plus loin, vous êtes aussi satisfait de savoir que des laboratoires développent des médicaments antiviraux? Alors, c'est une autre source d'espoir.
Mais le problème, vous savez, il y avait des médicaments que l'on disait repositionnés. C'est-à-dire, le médicament, on le connaît, on connaît son profil de tolérance, et puis on regarde si c'est une efficacité sur ce virus. C'était le Caletra, donc un médicament contre le sida. C'était...